Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence hein, cette revue de presse avec...
Et on le commence tout de suite avec, comme tu l'as dit, un François assez connu. Allez, donnez-moi un F, donnez-moi un I, donnez-moi un double L, donnez-moi un O. Et oui, François Fillon, ou s'il était chanteur populaire, Fraude François, c'est au choix. Notre golden boy national est de retour sur la place publique. Tous les quotidiens, Le Monde, Le Parisien, 20 minutes sont super excités à l'idée de nous faire bouffer des mises à jour d'articles à l'appel qu'on connaît déjà de toute façon. C'est génial. Bon, parce qu'on la connaît déjà en vrai l'histoire. Pour résumer, François Fillon est accusé d'avoir rémunéré son épouse, Pénélope, comme collaboratrice parlementaire alors qu'elle n'exerçait pas de réelle fonction, selon l'accusation. L'ancien Premier ministre va du coup contester les faits. Si les preuves manquent, il assure toujours que son épouse a été, je cite, « sa première et plus importante collaboratrice », MDR. François et Pénélope Fillon, du coup, nos Bonnie and Clyde nationaux, sont jugés jusqu'au 11 mars pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. Un schéma dont on commence à, ma foi, prendre l'habitude, si bien que Le Monde en profite pour nous filer un petit cours de droit dans un article titré « Querelle procédurale et premières escarmouches ». Merci qui pour ce cours de droit ? Eh ben merci Le Monde ! Comme l'audience était consacrée hier en effet à deux questions prioritaires de constitutionnalité, appelées dans le jargon QPC, et c'est en fait une procédure de contrôle de constitutionnalité sur les lois déjà promulguées. Ce sont donc, en fait, pour résumer, des questions d'ordre général posées par les avocats du couple sur lesquelles le tribunal se prononcera deux jours après, jeudi, où ils essayent en gros de justifier que les plaintes dont ils font l'objet ne sont même pas fondées constitutionnellement. Bon, allez, je vais quand même vous partager une petite citation bien juteuse sortie de cette partie du procès. Que serait un grand procès sans QPC, pardon. Et qu'importe que François Fillon, en son temps, n'en ait pas été le plus fervent défenseur, ironise l'un des deux procureurs à l'audience, Aurélien Létocard.
Bah, d'ailleurs, en parlant de tocard, c'est pas en ce moment le salon de l'agriculture ?
Ah ouais, tu as tout à fait raison Adèle, profitons-en pour parler de la FNSEA, acronyme pour Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, fondée en 1946, et syndicat professionnel majoritaire dans la profession agricole en France. Au salaire, usage des prélèvements sociaux, gestion des œuvres sociales, tiens, l'équipe de journalistes d'investigation de Mediapart a encore frappé. C'est cette fois Amélie Poinceau qui va droit au but, comme Marseille je sais, en trois volets dont le premier porte sur le train de vie hors sol de ses dirigeants, je cite. Évidemment, précarité pour les agriculteurs, mais pas pour les cadres de la FNSEA, l'enquête montre. L'ex-directrice générale de la FNSEA, par exemple, est rémunérée 14 900 euros brut par mois pour un poste de conseillère, entre guillemets, l'équivalent de ce que je touche, l'équivalent de ce que touche en moyenne un exploitant agricole en un an, et pas moi. Ensuite, un second volet qui se focalise sur un fonds normalement destiné à un observatoire de l'emploi agricole financé par des cotisations obligatoires et qui alimenterait les caisses du syndicat majoritaire. Enfin, Amélie Poinceau finit avec l'exemple du mécanisme d'œuvre sociale, dispositif cousin des comités d'entreprise, mais pour les agricultrices et agriculteurs, mécanisme qui existe depuis 2015 et qui aurait en fait servi à, je vous laisse deviner, et oui, il aurait servi à enrichir les caisses de la FNSEA, du FNSEA, à hauteur de pas moins de 1 million d'euros. Bon, un constat sans appel dont notre journaliste a profité pour aller interviewer en partie de Valentine Auberti, notre Jupiter national sur le sujet. Et puis, réponse classique pour la Macronie. On peut, dans notre pays, décider de diviser les Françaises et les Français en stigmatisant, nous dit Macron. Il faut que tout le monde soit transparent. Après, la transparence ne veut pas dire la stigmatisation. On en aura finalement mangé de la langue de bois de partout pendant ce mois de février.
Fin février, c'est Mardi Gras aussi. C'est le moment où se célèbrent tous les carnavals, non ?
Et oui, Adèle, et c'est du coup le moment où je vais vous parler de belles traditions et pratiques qui leur sont associées. Allez, France Info nous plonge dans l'ambiance du carnaval d'Alost en Belgique flamande qui existe depuis le Moyen-Âge et a eu lieu dimanche dernier. Imaginez juste, au milieu du carnaval, un char représentant le mur des lamentations. Le mur des lamentations ? suivi par des caricatures de juifs orthodoxes, habit noir, toque en fourrure, au corps de fourmi. Quelle bonne ambiance! On se demande comment les génies qui ont imaginé ce char l'ont justifié. Eh bien, les concepteurs du carnaval disent avoir voulu faire un jeu de mots entre mire, fourmi en néerlandais, et mur, mur en néerlandais. Et au cas où vous n'auriez pas été convaincus par leur démonstration, l'an dernier, eh bien, des juifs orthodoxes au nez crochu avaient été représentés assis sur des coffres d'or ou d'argent, soulevant, comme pour cette année, vous l'aurez imaginé, un torrent de critiques. Et ça fait maintenant quelques mois que l'événement a été totalement retiré de la liste du patrimoine universel de l'UNESCO, mais bon, hein, ce serait trop facile de tout simplement y mettre fin. Même histoire à Campo de Criptana, dans le centre de l'Espagne, où le Huffington Post relate des participants déguisés en soldats nazis et armés de faux fusils dansant au son d'une musique disco.
Eh ben, tu nous régales aujourd'hui. Tu vas plutôt nous parler gastronomie comme la dernière fois ?
Ouais, allez, finissons sur une touche gourmande, hein, le morceau de sucre qui nous aidera à avaler la bonne grosse pilule de ces actualités tellement, tellement fatigantes. Focalisons-nous du coup sur le gras de Mardi Gras. Si Mardi Gras ou le carnaval tiennent leur nom et leur date du carême, qui commence le lendemain mercredi des cendres, la fête n'est à l'origine pas du tout chrétienne, contrairement à la chandeleur qui a lieu quelques semaines auparavant. Alors pourquoi se régale-t-on de bugnes, beignets, gaufres et autres crêpes et churros croustillants à ce moment de l'année, se demande-t-on chez Madame Figaro, qui interview pour l'occasion Nadine Crétin, historienne des fêtes. Cette fête fonctionne en fait exactement comme pour les calendes de janvier de la Rome impériale, nous explique-t-elle, puisqu'elle célèbre le commencement de l'année et la renaissance de la nature. Célébration à l'origine païenne. Et en pratique, il était d'usage avant le carême de manger alors en abondance, avec un festin qui comprenait viande et bouillon gras et se terminait par des pâtisseries simples à faire et souvent frites. Vous aurez compris d'où viennent les gaufres et les bugnes lyonnaises qui sont, elles, arrivées à Lyon au XVIe siècle avec les marchands italiens. En espérant que ça vous donnera un petit peu faim.
Bon, et après les recettes de Nicolas, tu nous proposes quoi, Marie ?
Eh bien, quelques portraits inspirants et une petite échappée hors du réel. Alors, commençons d'abord à Paris, mais non, on ne va pas parler municipal, car La Croix nous propose plutôt de nous intéresser au nouveau projet de l'architecte japonais Tadao Ando, qui sera présenté en juin prochain, c'est la Bourse de commerce de Paris. Né dans une banlieue ouvrière d'Osaka, Tadao Ando dessine à 14 ans le deuxième étage de sa maison, qui sera construit exactement selon ses plans. À 18 ans, il déclare, je cite, « vouloir rendre le béton digeste et défendre à tout prix son bien le plus cher, la liberté de penser ». À 24 ans, il fait le tour du Japon et le tour du monde, et quelques années plus tard, sans avoir jamais fait d'études, il obtient le prix Pulitzer d'architecture pour, je cite, « sa philosophie d'architecture qui crée des espaces où l'homme est en relation avec la lumière ».
Ok, c'est un portrait inspirant, mais t'aurais pas une autre figure à nous présenter ?
Alors si, et cette fois on part en Allemagne pour la rencontrer, je parle de Naomi Seibt. Elle a 19 ans, elle est youtubeuse, proche du parti d'extrême droite AfD, et on la surnomme l'anti-Greta. Même cheveux blonds que Greta Thunberg, même éloquence, mais discours radicalement opposé. Car Naomi qualifie Greta de « marionnette endoctrinée » et elle qualifie la conscience climatique de, je cite, « idéologie anti-humaine ». Alors apparemment, son franc-parler a bien plu au Heartland Institute, un think tank conservateur américain qu'il a recruté pour être l'effigie d'une grande campagne remettant en cause le consensus scientifique autour de la responsabilité humaine dans le changement climatique.
Bon, et si tu nous parlais un peu du coronavirus, c'est quand même un sujet majeur, non ?
Alors oui, le Figaro consacre un reportage au pangolin, cet animal à écailles que Pierre Desproges décrivait comme, je cite, un artichaut à l'envers avec des pattes, prolongé d'une queue à la vue de laquelle on se prend à penser qu'en effet, le ridicule ne tue plus.
Le rapport avec le coronavirus ?
Eh bien, ce mammifère est donc soupçonné d'avoir été un des transmetteurs originaux du virus, sans que cette thèse n'ait pour l'instant été prouvée. Reste que le pangolin est d'abord l'espèce la plus braconnée au monde, devant les éléphants et les rhinocéros. La médecine chinoise attribue à ces écailles des vertus curatives, et en Afrique de l'Ouest, sa viande est considérée comme un mets de luxe. Mais si l'espèce est protégée, elle fait donc l'objet d'un trafic important et très peu contrôlé, un fait qui pose des problèmes sanitaires majeurs.
Ouais, enfin ce qui pose aussi des problèmes sanitaires majeurs, c'est peut-être également notre mode de vie prédateur, non ?
Oui, alors au lieu de reporter la faute sur d'inoffensifs petits artichauts sur pattes, interrogeons-nous sur nos pratiques à nous, les humains. Dans le monde diplomatique, Sonia Shah explique notre vulnérabilité croissante face aux pandémies par la destruction accélérée des habitats. Avec la déforestation, par exemple, les espèces qui sont privées de leurs habitats naturels se regroupent près des implantations humaines, ce qui accroît la probabilité de contacts proches et répétés avec les hommes. Et avec l'altération des sols, l'eau et les sédiments ruissellent plus facilement et forment des flaques qui sont favorables au développement des moustiques porteurs du paludisme. De même, l'élevage industriel s'accompagne de montagnes de déjections qui ne peuvent pas être imprégnées par les sols et qui sont autant de zones de développement privilégiées pour des bactéries extrêmement nocives pour l'homme.
Bon, si on allait voir ailleurs pour changer un peu de sujet ?
Eh bien oui, par exemple, tiens, dans l'espace. Mais je te préviens, c'est pas très réjouissant non plus, d'après un article de The Conversation. Car dans l'espace se trouvent quelques 240 satellites déployés par SpaceX afin de fournir une connexion Internet à haut débit pour tous. Mais problème, ces satellites pourraient être piratés et devenir des armes de guerre, avertissent les chercheurs. En effet, certains des composants utilisent de l'open source et ces satellites reposent sur des technologies très peu chères. Les pirates pourraient donc couper l'accès à Internet dans des zones entières, ce qui pourrait causer des problèmes socio-économiques majeurs, ou alors détourner les satellites pour les faire heurter d'autres appareils qui gravitent dans l'espace. Bref, un scénario de science-fiction pas si éloigné de la réalité.
Bon, face à ces infos pas forcément très gaies, on pourrait être tenté de se distraire un peu, en jouant aux jeux vidéo par exemple ?
Alors oui, pourquoi pas, mais encore faut-il choisir lequel ? Car si vous achetez Through the Darkest of Times, désolé pour l'accent, c'est plutôt une plongée très réussie dans le réel qui vous attend. Unanimement saluée par la critique, cette pépite conçue par deux Allemands vous permet d'incarner des résistants pendant l'époque nazie. Un jeu ouvertement antifasciste dont les graphiques s'inspirent des peintures d'Otto Dix et la musique des airs de swing qui sortaient des gramophones des années 1930. Un jeu aussi qui réussit le pari de raconter fidèlement la grande histoire à travers des cas individuels, un membre des jeunesses hitlériennes qui déserte ensuite l'armée, une femme chômeuse qui se trouve un emploi dans un camp de concentration, etc. Bref, ici on ne fuit pas le réel, mais on se pose des questions, tout en appréciant un des rares jeux sur la période nazie qui ne soit pas apolitique.
Ok, bon. Et pour finir, la presse n'aurait pas un dernier conseil pour ceux qui seraient adeptes de l'ambiance Troisième Reich, mais qui voudraient s'évader un peu du réel ?
Alors oui, pour ceux qui ne seraient pas du coup adeptes de cette ambiance Troisième Reich, il y a une solution. Ils peuvent aller fouiller du côté du collectif Zanzibar, auquel Le Monde consacre un article au titre alléchant « Zone de rêve collectif ».
Zanzibar ?
Oui, alors Zanzibar, c'est un collectif d'écrivains de science-fiction, parmi lesquels Alain Damasio, Catherine Dufour ou Léo Henry. Créé en marge du Festival des Utopiales, il vise, je cite, « à susciter la co-création, à imaginer nos avenirs, à jouer avec et à les construire à notre guise ». Car oui, nous rappellent les auteurs, tout ce que nous pouvons voir a bien été, à un moment ou à un autre, imaginé. Alors à Zanzibar, on pratique la science-friction, l'art de rapprocher deux sujets qui n'ont a priori rien à voir. Et pour susciter la création, on élabore des protocoles qui jouent sur la contrainte pour titiller les imaginaires. Exemple, je cite, le protocool one. Entrez dans un bar à plusieurs, payez votre tournée. Puis, imaginez ce bar dans 10 ans et votre retour à tous dans ce même bar. Et imaginez ensuite le bar dans 50 ans, puis 100 ans. Autre exemple de proto-cool, l'horoscope universel. Je cite les consignes, quel est le signe de l'univers ? Titre, une forme larvée d'inquiétude, vous avez 20 minutes.
Merci Marie, merci Nicolas pour cette super revue de presse. Et tout de suite, c'est